Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode.
Bonjour à tout le monde.
Oui, je suis seule aujourd'hui, donc c'est Mathilde, hein, j'imagine que vous avez compris. Je ne suis pas avec Léa, j'espère que vous allez bien. Comme Léa vous l'avait dit une fois, on se teste à vous proposer des épisodes un peu plus en solitaire, on va dire. Donc je me prête à l'exercice. Exercice du coup pas forcément évident pour moi, mais j'aime bien sortir de mes zones de confort parce que je trouve que c'est des éléments importants pour prendre confiance en soi quand on se fait des petits challenges. Voilà, je suis dans ma voiture parce que les voitures insonorisent plutôt bien. Donc je suis seule dans ma voiture. Donc pour ceux qui sont aussi dans leur voiture, on est à peu près dans les mêmes dispositions, si ce n'est que moi je ne conduis pas, bien évidemment, hein, vu que je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Donc voilà, je me suis longuement demandé de quoi j'allais pouvoir vous parler aujourd'hui. Forcément, sans thème imposé, on va dire, on peut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a tellement de choses, notamment dans la psychologie, hein, qui sont importantes. Et puis, je crois que j'ai eu envie de vous faire un épisode, on va dire, déculpabilisant, si tant est que ça puisse vous déculpabiliser, notamment en lien avec le fait que, bon, on voit beaucoup de choses, hein, sur les réseaux sociaux, de phrases un peu toutes faites, parfois culpabilisantes justement, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, sur la façon dont on devrait se comporter avec soi-même, avec les autres. Et j'avais envie d'apporter parfois un peu de nuances aussi sur tout ce qu'on pouvait entendre, notamment en lien avec le développement personnel que plus ou moins tout le monde peut s'approprier. Parce que c'est important de nuancer, parce que c'est tellement complexe la psychologie et le comportement humain que il est forcément très compliqué, hein, de tirer des règles générales sur la diversité de qui nous sommes finalement. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler notamment de cette distinction qui, je pense, est importante à faire entre la peur et la non-envie de faire. Pourquoi je vous dis ça ? Forcément, je me base aussi sur mes expériences, hein, en tant que psychologue au cabinet et de toutes les rencontres que je vois depuis toutes ces années. Et il y a quelque chose qui me revient souvent, que l'on me dit souvent, c'est notamment ce côté-là de il faut que je fasse les choses seule, il faut que j'apprenne à vivre seule, il faut que je fasse telle activité ou telle autre activité seule. Avec cette croyance-là que si on ne fait pas les choses seule, c'est qu'on est dépendant. Et du coup, ça va m'amener à vous parler notamment de tout ce qui est dépendance affective, etc., etc. Il faut faire cette distinction entre la peur et cette non-envie, dans le sens où il y a une différence entre « je n'ai pas envie de faire les choses seule » et « j'ai peur de faire les choses seule ». Si vous avez envie de faire des choses seule, mais qu'il y a des craintes du regard de l'autre, la crainte de ne pas y arriver, la peur de ne pas se sentir capable, etc., alors je vous encourage à aller faire ces choses seules. Parce que ça va vous aider à prendre confiance en vous et parce que ça va vous prouver aussi que ben, vous pouvez le faire, que vous êtes capable et que ça peut très bien se passer tout simplement. Par contre, il y a souvent des personnes qui se disent « mais en fait, je ne fais pas telle ou telle chose seule, je n'aime pas aller au cinéma seule, il faudrait que je le fasse pour faire plus des choses seules, pour me trouver avec moi-même, etc. etc. » Et là, je trouve que c'est important de ne pas s'imposer des choses qui ne sont pas en lien avec vos valeur. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas faire des choses seules, par exemple, que ça veut dire de vous que vous êtes dépendant ou que vous avez forcément besoin d'être accompagné, etc., etc. Dans la mesure où ça ne vous empêche pas de fonctionner au quotidien et de quand même entreprendre des choses de la vie quotidienne seule, vous avez le droit d'avoir envie de partager. Ce partage-là, il est important parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux et donc il y a des personnes qui vont effectivement apprécier de faire beaucoup de choses seules et il y a des personnes qui vont avoir besoin de partager. Il y a par exemple l'idée du voyage. Il y a des gens qui vont aimer et qui vont trouver un vrai challenge dans le fait de partir seul voyager. Et pour d'autres personnes, en fait, ça n'aura aucun sens. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles en sont pas capables fondamentalement parlant, c'est qu'elles n'y voient pas de sens à faire ces choses seules. Bref, il peut donc être intéressant de se poser la question de « est-ce que je ne le fais pas parce que j'ai peur de quelque chose et c'est de l'anxiété que je ressens, je m'en sens pas capable, etc. etc. » ou « est-ce que je ne le fais pas parce que, en fait, quand je me projette dans cette activité seule, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt et pas beaucoup de sens ?» On n'est pas obligé de faire des choses seules pour se trouver. On n'est pas obligé de vivre... voilà, des choses seules pour être capable de faire des choses, en fait. Ça dépend vraiment de vous et de vos valeurs aussi. Il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de règle générale à tirer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. En fait, c'est toujours la même chose et on le répète souvent, hein, mais vous êtes votre propre indicateur. Si effectivement vous manquez de temps seul et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là et que ça vous fait souffrance, alors oui, il y a une piste à explorer sur le pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné pour faire telle ou telle chose. Mais si finalement vous êtes plutôt aligné avec le fait de ne pas aimer faire des choses seules parce que vous n'y voyez pas grand sens et que vous préférez partager ces choses-là avec un partenaire, un parent, un frère, une sœur, un ami, enfin qu'importe, c'est complètement ok et vous ne gagnerez pas forcément grand-chose de plus à essayer de faire ces choses seules, sauf si bien sûr vous y voyez un intérêt. Enfin bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là, mais c'est ce qui m'amène en tout cas à vous parler de ce côté dépendance. Souvent, hein, je reçois des patients, patientes qui peuvent me dire, bah, en fait moi mon problème c'est que je suis dépendant ou dépendante affective notamment. Et j'ai un petit problème avec cette dénomination-là. Non pas parce qu'elle n'existe pas, parce que le schéma de la dépendance existe, se construit notamment dans l'enfance, en fonction de la façon dont le lien d'attachement s'est fait, etc. Évidemment, hein, si j'ai eu un environnement plutôt négligent ou surprotecteur, je vais avoir plus de risques de développer ce type de schéma-là. Mais c'est un schéma cognitif particulier, un schéma de pensée particulier. Et souvent, il y a des personnes qui me disent qu'elles sont dépendantes affectives, alors même que ce n'en est pas du tout. Dans ce terme-là, il y a parfois la croyance aussi qu'il faudrait s'autosuffire à soi-même. Et c'est des choses qu'on voit souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il faudrait ne dépendre de personne, n'avoir besoin de personne, être son seul et unique pilier pour être sûr de bien fonctionner, etc., etc. Et en fait, ça, c'est une croyance. C'est-à-dire que bien évidemment qu'on ne peut pas s'auto-suffire comme un réservoir d'énergie qui s'auto-alimenterait. C'est complètement normal d'avoir besoin de d'autres personnes, c'est complètement normal de préférer vivre des choses avec d'autres personnes, parfois même d'avoir un fonctionnement par exemple de couple où on a besoin d'être en permanence avec l'autre parce qu'il y a autant de couples qu'il y a de couples. De fonctionnement de couple qu'il y a de couple et qu'il n'y a pas de règle générale à tirer, c'est toujours la même chose. Et une fois de plus, l'indicateur, c'est vous. C'est-à-dire que si dans ma relation de couple, par exemple, je suis tout le temps avec l'autre, mais que ça me génère des émotions très désagréables, que je perds confiance en moi, que en tout cas le fonctionnement est tel qu'il ne me convient pas, là oui, il y a des choses à changer. Mais il peut arriver aussi que certains couples fonctionnent comme ça, par exemple, sans pour autant que l'un des deux soit dépendant. Et puis cette dépendance affective-là, quand on est vraiment dans la dépendance affective, c'est que l'indépendance n'a pas été favorisée. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que pour être indépendant affectivement parlant, on va dire, il faut qu'on nous ait donné suffisamment pour être indépendant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que penser que l'on peut tout gérer seul, enfin, voilà, sans jamais solliciter, sans jamais avoir besoin de personne, etc., etc., c'est souvent des pensées qui vont entretenir un sentiment de solitude et qui ne vont pas forcément aider à se sentir aimé, à se sentir pleinement soi, etc., etc. Donc, je pense que c'est important de faire cette distinction-là entre « je suis dépendant » affectivement, c'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de me détacher de l'autre et je suis persuadée que j'ai besoin de l'autre parce que sinon je vais m'écrouler, parce que sinon je ne sais pas fonctionner, parce que sinon je ne sais pas faire, je ne m'en sens pas capable, etc., etc. Et juste, j'ai besoin de partager. Je me sens bien quand je suis avec cette personne, je me sens bien quand je suis entourée et je me sens mieux comme ça et c'est dans mon système de valeurs. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser d'avoir besoin parfois des autres, ni avoir des attentes envers les autres, parce que c'est tout à fait normal. Hein. Qui dit relation dit attente, en fait. L'un ne va pas forcément... Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, d'ailleurs. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est, ça revient à cette question-là de... Est-ce que c'est dysfonctionnel ou est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce que finalement je suis constamment avec quelqu'un parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, parce que je m'en sens pas capable ? Ou est-ce que je suis constamment avec quelqu'un parce que en fait je fonctionne comme ça et profondément c'est ok avec moi, je suis alignée avec ça et ça ne me pose pas de problème. Et n'allez pas chercher à régler des choses où il n'y a rien à régler. Acceptez aussi parfois que vous ne répondez pas aux standards, par exemple, des phrases toutes faites sur les réseaux sociaux, que oui, on ne peut pas s'autosuffire et c'est complètement normal. On est des êtres sociaux qui sommes faits pour vivre ensemble et donc on a besoin de recevoir des autres pour se sentir bien et c'est complètement ok et adapté. Voilà. Je sais pas si c'était très clair et je sais pas si finalement tout ça va réellement vous déculpabiliser. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, ça m'a fait du bien de prendre conscience de ça, en tout cas, et de me dire que qu'importe en fait la façon dont on agit au quotidien, ce qui compte c'est nous et la façon dont on se sent avec ça. Effectivement, quand je me sens pas bien avec la façon dont je fonctionne, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a peut-être des choses à travailler. Mais quand c'est complètement en accord avec moi, qu'importe ce qu'on peut dire autour, qu'importe le fonctionnement des autres, ce qui compte, c'est comment moi je le vis et comment moi je le ressens. Et quand je me sens bien, ben en fait, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Parfois, ce qui nous paraît dysfonctionnel chez les autres, ben finalement, c'est complètement fonctionnel pour eux. Parfois, le déséquilibre de quelqu'un est l'équilibre de quelqu'un d'autre et c'est complètement ok. Il faut accepter cette diversité voilà, de fonctionnement. Donc attention aux phrases toutes faites que vous pouvez entendre, hein, de « tu es seule et c'est ok, tu dois vivre les choses seules, ne compte que sur toi ». Bon, tout ça c'est apprendre aussi avec des pincettes. Écoutez-vous, c'est je pense ultra important. Et voilà, bon, j'espère que ce petit épisode rapide, mais en même temps les monologues c'est pas tout à fait simple, hein, je vais pas vous mentir. Donc, mais j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, peut-être voilà, déculpabilisé sur certains points. Faites de vous dire que parfois, ben oui, on peut aimer être tout le temps avec des gens dans la mesure où ça nous convient et que ça ne porte pas souffrance, ben c'est ok et que ça ne veut rien dire de notre capacité à être seul, bien au contraire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez bien soin de vous. Vous savez qu'on reste disponible notamment sur takecare.co, qui est le compte Instagram avec Léa et toute la team de Take Care. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.